la Rua, et les Hashmonaïm, comme vous savez, ils sont des Kohanim. Les Kohanim, c'est les gens de la tribu de Lévi. La royauté, elle appartient à la tribu de Yehuda. Il y a séparation des pouvoirs, c'est-à-dire, a priori, la royauté, elle appartient de droit à Yehuda, à la tribu de Yehuda. Et eux, comme il n'y avait personne d'autre, il faut dire la vérité, il n'y avait personne qui pouvait être désigné comme roi, ils se sont désignés eux-mêmes comme roi. Alors, le Ramban Nachmani dit que c'est une tragédie, d'abord parce que c'était interdit, et que pour lui, c'est ça qui a entraîné la destruction ultimement du Beth Amikdash et le Galout dans lequel on est encore aujourd'hui. Alors que Rambam écrit que suite à la victoire des Hashmonaïm, Hehemidu Melech Minakoanim, ils ont donc installé un roi issu des Kohanim, et il dit, et ainsi on a eu la Malchut, la royauté juive sur le peuple juif, pendant 200 ans. Donc, du Rambam, on a vraiment l'impression que pour lui, pour Rambam, c'est quelque chose de positif. Alors, comment quelque chose qui est assourd peut être positif? Alors, on peut tout de suite faire une remarque, d'abord. C'est que c'est vrai que la royauté, elle appartient à Yehuda. C'est Yaakov Avinu qui lui a donné la royauté. Vous vous souvenez, on avait expliqué que on voit dans les brachot que Yaakov a donné à ses enfants, il explique que Reuven aurait dû être Melech. Mais il n'est pas parce que Pachas Kamaim. Et ensuite, après lui, Shimon et Lévi auraient dû être Melech. Mais ils ne le sont pas à cause de l'histoire de Shechem, le massacre qu'ils ont fait à Shechem. Et donc le quatrième candidat, c'est Yehuda. Et donc, Yaakov lui a donné la malchut. Il a la malchut parce que, dans l'ordre de naissance, Yehuda est celui qui est Melech. C'est celui qui est candidat au trône, et Yaakov le lui donne, ce trône. Et on voit par ailleurs que pour ses frères, c'était clair que Yehuda était le roi. On sait aussi que la rivalité entre Yosef et Yehuda, elle vient aussi essentiellement de ce que les frères ont dit à Yosef. Quand Yosef leur a raconté son rêve, ils lui ont dit, est-ce que tu amalor timloch aleinu? Est-ce que tu penses régner sur nous? Et ils ont ajouté, est-ce que machol timchol, est-ce que tu vas régner? Vous savez qu'il y a deux façons de régner, en fait. Il y a une royauté qui est une royauté acceptée par le peuple. Celle-là, elle se dit Malchut, et ça donne Melech. Et puis, il y a une royauté qui est plutôt une tyrannie, et qui se dit Memshala. Donc, ils lui ont dit, est-ce que tu penses être roi avec notre accord, ou éventuellement sans notre accord? Est-ce que tu penses être roi sur nous? Et ils lui ont reproché, et en disant, bah, tu en rêves la nuit, c'est parce que tu y penses toute la journée. Tu penses toute la journée à cette royauté, et donc tu finis par en rêver la nuit. Donc il y a une rivalité au sujet de la royauté entre Yosef et Yehuda, évidemment. C'est bien connu. Donc, les Kohanim ont fait quelque chose qui, a priori, ne pouvait pas être fait. Et il faut expliquer, évidemment, la position de Rambam. C'est ce qu'on a essayé de faire la dernière fois. Alors, on l'a expliqué, disons, pour résumer, je veux dire, il y a un enseignement du prix de Sadik, de Rav Tzadok HaKohen. Lui, il avait commencé, vous vous souvenez probablement, je répète, je suis obligé, parce que tout le monde n'était pas là probablement, Il pose une question sur le texte de la Gemara. Je vous ai dit, sur Hanouka, on a très peu de textes. C'est un tout petit texte, quelques pages, enfin, qui concerne les dilim d'allumage des nérodes de Hanouka. Et sur ce qu'était Hanouka, c'est quelques lignes. Et dans la description que la Gemara fait des événements de l'époque de Hanouka, la Gemara, elle parle, elle a une expression. Elle dit que quand Bukhshe Gavra Bet Malchut Hashmonaim, d'accord, elle décrit, et quand, littéralement, si je traduis mot à mot, et quand a pris le pouvoir, a été plus forte, Bet, la maison Malchut, Bet Malchut, c'est la maison royale de Hashmonaim, etc. Alors, le Tzolka Cohen pose la question. Au moment de la guerre, ils n'étaient certainement pas une maison royale. Au moment de la guerre, qui sont-ils? Ils sont des Kohanim. Kohanim Gdolim, Atityahu, Kohanan, Kohen Gadol, la famille du Kohen Gadol. Mais ils ne sont pas Malchut. Comment se fait-il que la Gemara, c'est pas Rambam, ça c'est la Gemara, elle en parle au moment de la guerre, en disant que quand Bet Malchut Hashmonaim a gagné la guerre, etc., il n'y a pas de Bet Malchut Hashmonaim, ça n'existait pas à l'époque. Alors il répond par un yosod, par un principe absolument fondamental, qui est que on ne peut pas gagner, dans une guerre en particulier, et peut-être même dans toutes les épreuves, sans qu'on ait la mida de Malchut, sans avoir la qualité de Malchut. Par conséquent, s'ils ont gagné, c'est ce que la Gemara nous dit, quand on parle de gagner une guerre, alors on a affaire à des gens qui ont la mida de Malchut. On en avait fait une toute petite parenthèse sur ce que c'est que cette mida de Malchut. La Malchut, comme je vous ai dit, c'est le fait de régner sur des sujets qui sont d'accord qu'on règne sur eux. A priori, c'est ça la Malchut. Et en fait, c'est une des midot d'Hachem. Encore, c'est dans le monde des Sphirot, par exemple, c'est la dernière des Sphirot. Et ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, quand il règne sur nous, il demande à régner sur nous en tant que Melech. D'accord? C'est comme nous disons qu'il Hachem Amloucha ou Moshel Bagoyim. C'est-à-dire, nous reconnaissons à Hachem la Malchut, la Mloucha, ou Moshe le Bagoïm, et les Goïm qui eux ne le reconnaissent pas. Néanmoins, Hachem les dirige, Hachem les gouverne, Hachem, en fait, les commande. C'est une Malchut, c'est la Malchut d'Hachem, ça veut dire, c'est la façon de gouverner, et du coup, par exemple, les rois en Israël, les rois d'Israël, sont des rois qui sont du type Melech n'est pas du type Moshel. La preuve, c'est que le roi David, qui a été oint par Shmuel sur l'ordre d'Hachem, quand son fils Avshalom s'est révolté contre lui, et que le peuple a majoritairement suivi Avshalom, c'est Avshalom qui était roi. Donc le peuple a décidé que David ne l'était plus. Il ne leur convenait plus que David soit roi. Et quand Avshalom est mort, eh bien, ils sont retournés chez David, et David est redevenu roi. Mais pendant un certain temps, il ne l'était pas, parce que pour être Melech, il faut l'accord du peuple, et le peuple était majoritairement pour Avshalom, son fils. Donc il faut cette mida de Malchut. Alors, vient la question, en quoi est-ce que les Hashmonaïm ont-ils cette mida de malchut, comment est-ce qu'elle s'exprime chez eux? Alors, la fonction des Kohanim, contrairement à ce qu'on dit, à ce qu'on pense d'ordinaire, ce n'est pas une prêtrise, au sens où, en réalité, leur travail dans le Beit HaMikdash, il est de 15 jours par an. Il y a 24 groupes de Kohanim, donc ça veut dire 15 jours par an. Alors, bien sûr, il y a les jours de fête, de Moadim, où tout le monde est sur le pont quasiment, et puis il y a un back-office derrière. Mais en gros, les Kohanim, ils n'ont rien d'autre à faire pendant tout ce temps qu'à faire la chose pour laquelle en réalité ils sont Kohanim, à savoir étudier et enseigner la Torah. La fonction essentielle des Kohanim, ça n'est pas le travail dans le... En tout cas, si on regarde en termes de... En termes de temps consacré à, effectivement, leur fonction, c'est d'enseigner. Et pour pouvoir enseigner, il faut évidemment étudier. Donc la fonction essentielle, leur fonction essentielle, c'est étudier pour pouvoir enseigner. Donc ces Kohanim-là, comme enfin, Kohen Gadol, etc., qui sont des tzadikim, qui sont évidemment effectivement des tzadikim à ce moment-là, en tout cas, ceux-là sont des tzadikim, ils le restent toujours, ceux du départ, eh bien, eux, leur koach, c'est un koach à Torah. Leur force, c'est la force de la Torah. Et l'enseignement de la Torah, c'est l'enseignement, évidemment, de la Torah chez Baal Peh. Et c'est à l'époque du deuxième Beit HaMikdash que la Torah chez Baal Peh a été vraiment développée. Bien sûr, Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah chez Baal Peh également, mais il l'a reçue, on pourrait dire, de façon compacte. Elle ne s'est déployée que par la suite. Elle est toujours en train de se déployer. Aujourd'hui aussi, les gens qui étudient sérieusement, ils produisent de la Torah chez Baal Peh. Bien, ce moment particulier de développement de la Torah chez Baal Peh, c'est le travail des Kohanim à ce moment-là. Et dans la Gemara, on dit Man Malche Rabbanan. Qui sont les rois? Ce sont les Rabbanan. Parce qu'effectivement, avec la Torah chez Baal Peh, le clan Israël est dirigé par les Rabbanan. C'est les Rabbanan qui disent, qui guident le peuple, au point même que, par exemple, le roi, quand il veut faire la guerre, certaines guerres, il est obligé de consulter les Chachamim, c'est-à-dire le Sanhedrin. Il ne peut pas faire la guerre s'il n'a pas l'aval du Sanhedrin, le Chachamim, tout roi qu'il est. Et donc, ce qui s'est vraiment passé, c'est-à-dire... l'essentiel, si on peut parler comme ça, de la Geoula, de la libération qui a eu lieu par les Beit Hashmonaïm, c'est le retour de la Malchut, enfin, le retour de la Malchut de Torah chez Baal Peh. Alors, d'où vient ce rôle des Kohanim, c'est que comme vous savez, les Kohanim, ce sont les descendants d'Aaron. Et Aaron, c'est ce qu'on appelle le Shoresh, la racine de la Torah chez Baal Peh. La Torah chez Baal Peh, elle commence quand Moshe Rabbeinu enseigne à Aaron. Aaron, lui, il ne reçoit pas la Torah directement d'Hachem, il le reçoit des Chachamim, il le reçoit de Moshe Rabbeinu. Et il va, lui, effectivement, développer à son tour cette Torah chez Baal Peh. Alors, il y a des sources sur lesquelles je vais parvenir, d'autres sources qui montrent également comment se fait-il que, pourquoi est-ce qu'Aaron est effectivement la source de Torah Shebaal Peh. Bon, on va pas tout répéter. Ensuite, on a parlé du lien particulier de la tribu de Lévi avec Yavan, avec les Grecs. Le Midrash Rabbah, il dit très clairement qu'il y a un lien particulier parce que, par exemple, Lévi et Yavan, ce sont trois mots qui s'écrivent, trois noms qui s'écrivent avec trois lettres. Et bon, pour ce qui va nous intéresser particulièrement, le Midrash dit dans Beyad Mi Malchut Yavan Nofelet, d'accord, la royauté grecque, elle tombe devant qui? Beyad Bnei Hashmonaim, elle tombe aux mains des Hashmonaim. Et pourquoi, dit le Midrash? Parce qu'ils sont de la tribu de Lévi. Donc il y a un lien, c'est quasiment l'anti-Yavan, c'est Lévi. Alors, effectivement, les Kohanim sont de la tribu de Lévi. Mais dans ce cas-là, comment se fait-il que ce soit les Kohanim en particulier qui se sont révoltés et pas toute la tribu de Lévi? Alors, peut-être que toute la ma'ala, toute la qualité des Kohanim, bon, c'est que ils sont ceux qui, ils sont de la tribu de Lévi. C'est ça l'essentiel. Et on sait que en ce qui concerne l'étude de la Torah, le Rambam dans Hilkhot Avodah Zara, il dit que Yaakov Avinu, il a distingué son fils Lévi. Alors bien que Yaakov évidemment ait enseigné la Torah à tous ses fils, mais Rambam dit il a distingué son fils Lévi et il l'a installé comme Rosh Yeshiva. C'est le Rosh Yeshiva, c'est Lévi. Et par conséquent, du coup, il revient toujours encore à la même question. Alors pourquoi les Kohanim? Pourquoi pas toute la tribu de Lévi? Alors, ça, si vous voulez, avant d'essayer de répondre plus avant à cette question-là, on va utiliser ce fait-là, cette royauté qui est arrivée à Yehuda, mais je vous ai dit, et je voulais remettre l'accent là-dessus, c'est que au fond, Lévi, après la disqualification de Reuven, Shimon et Lévi auraient pu être rois. Mais eux aussi se sont disqualifiés lorsqu'ils ont massacré tout le monde à Shrem, d'accord, au lieu de ne tuer que Hamor et Shrem lui-même, c'est-à-dire le fils et le père, enfin le fils qui a violé Dina et son père. Et Yaakov Avinu les a sérieusement maudits littéralement. Arur Apam. Alors, effectivement, pourquoi Shimon n'est pas roi? À cause de cette histoire de Shrem. Pourquoi Lévi n'est pas roi? À cause de cette histoire de Shrem. Mais Lévi s'est racheté. Lévi s'est racheté, vous savez, au moment du veau d'or, après le veau d'or, quand Moshe Rabbeinu a dit « Mil Hashem Elai », que tous ceux qui sont pour Hashem viennent vers moi, et venir vers Moshe Rabbeinu, ça voulait dire venir et être et aller tuer tous ceux qui ont participé à la Vodazara du Vodor. Et toute la tribu de Lévi est venue. Et les Chachamim disent que en utilisant cette qualité qui était à un moment donné un défaut, quand ils ont massacré Shrem, mais qu'ils ont utilisé cette qualité, on va voir de quoi on parle ici, effectivement pour faire disparaître les traces de l'idolâtrie dans le peuple d'Israël. Donc ce faisant, ils se sont qualifiés, requalifiés en quelque sorte. Alors la malchoute, elle appartient toujours à Yehuda. Mais si on veut, la raison qui a fait que Lévi n'a pas eu la malchoute, elle a disparu. Après le Vaudor, elle a disparu. Par contre, vous savez bien, dans Shimon, il a aggravé son cas avec l'histoire de Zimri. D'accord? Dans son histoire avec sa Midianite, etc. Donc lui, il a encore aggravé son cas. Donc, Lévi, lui, s'est requalifié. Et donc, c'est une façon de dire que Lévi, il a une relation avec la royauté. Quelque part, dans la situation actuelle, il n'est pas étranger à la royauté. Puisque dans l'ordre de succession, il aurait dû venir, enfin, il vient avant Yehuda. Mais bon, il y a un état de fait. Alors maintenant, c'était quoi le problème de Lévi et de Shimon aussi d'ailleurs? Alors, quand Yaakov les maudit, il parle de leur azout, Arurapam, et ils sont maudits pourquoi? Qui az? À cause de leur azout. La azout, c'est une forme d'impudence, on va garder ce mot d'impudence, de chutzpah, si vous voulez. Alors, on sait bien que la chutzpah, c'est une mauvaise mida. C'est pas une bonne mida, l'impudence. Seulement, par exemple, dans le tout début du Shulchan Aruch, le Remo, et c'est comme ça que le gars le dit dans le Remo, il dit que il faut être azkanamer. Bon, c'est-à-dire, il faut avoir cette impudence de la panthère. Et pourquoi est-ce qu'on en a besoin? On en a besoin pour résister aux moqueurs, aux gens qui se moquent de nous quand nous pratiquons la Torah. Quand on pratique la Torah, il faut avoir cette impudence, cette rigidité, cette façon de faire face aux moqueries, qui s'appelle azout. Ça, c'est la azout, la bonne azout, si on veut. La mauvaise azout, c'est l'impudence d'aller tuer toute une ville, alors que, comme dit leur père, mais on est entouré d'ennemis, là. S'ils se lèvent contre nous, ils vont nous réduire à rien du tout. Vous êtes complètement fous d'avoir tué tout le monde à Shrem, dans la ville de Shrem. C'était une azout. Après, il faut la azout. C'est de nouveau la azout d'oser aller, à la limite aussi, tuer des gens. Comme on dit, c'était vraiment sans pitié. Les gens qui ont pratiqué l'idolâtrie, il fallait tuer, y compris les amis, les proches, etc. Là, il fallait une azout. Donc, il y a une bonne azout. Maintenant, les Grecs, pour les Chachamim, l'opposition des Grecs, elle se faisait par la moquerie. Les Grecs pensaient que tout ce que eux ne considéraient pas comme valable, c'était tout de la bêtise. Donc ils se moquaient de ce que faisaient les Bnei Israël. Et la lutte contre les gens qui se moquent, on voit dans le Shulchan Aruch, la lutte contre les gens qui se moquent, elle nécessite la mida de Hazout. Et la raison pour laquelle Lévi est celui qui va faire tomber Yavan, c'est que Lévi a justement cette mida de Hazout qui est exactement ce qu'il faut pour lutter contre la moquerie. Pour lutter contre les gens qui dénigrent, qui se moquent, qui prennent rien au sérieux, etc., il faut de la Hazout, et c'est justement la mida, la caractéristique de la tribu de Lévi. Et donc c'est pour cela que la Hazout, si vous voulez, de la tribu de Lévi est vraiment tout à fait adéquate. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a avec les Kohanim? Pourquoi les Kohanim? Alors, le Maharal, dans un commentaire sur la Gemara dans Kiddushin, fait référence à ce que Chazal qui disent que, en fait, il y a plusieurs sortes de azim. On dit que parmi les peuples, Israël, c'est azim shebaoula. Les Bnei Israël sont des impudents parmi les peuples. La chutzpah d'Israël, quoi, par rapport aux autres peuples. Les Chazal disent aussi qu'il y a une azout des Kohanim par rapport aux autres Juifs. Les Kohanim par rapport au reste d'Israël, ils sont aussi azim. Donc, si on veut, la tribu de Lévi, elle a en caractéristique d'être azim, mais la pointe avancée de la azout, c'est dans la tribu de Lévi, les descendants d'Aaron, les Kohanim. C'est cette azout, si vous voulez, qu'on voit chez Pinchas. Quand Pinchas ose s'attaquer, comme disent les autres, il ose s'attaquer à un prince en Israël, Zimri, c'est un prince. Il s'attaque à un prince, alors c'est une azout, et on voit très bien, c'est un degré d'azout qui est tel qu'Hachem lui donne la kehuna. Ça veut dire, lui qui n'est pas Cohen de naissance, il le devient, il est le seul qui devient Cohen de cette manière-là. Pourquoi? À cause de sa capacité de Kina. Kina, c'est la Kina pour Hachem, en quelque sorte. Et donc, c'est là qu'on voit apparaître, en fait, les Kohanim à l'intérieur des Levim, la spécificité des Kohanim. Donc, on a donc trouvé pourquoi les Kohanim jouent un rôle particulier. Et maintenant, je crois qu'il faut lire le Rambam un tout petit peu avec peut-être un nigoun un peu différent pour comprendre. Le Rambam vient pas nous dire ici que midou melech min akohanim, c'est bien qu'ils soient des kohanim ou bien en provocation, bien qu'ils étaient des kohanim, malgré ça ils les ont nommés, etc. Il vient expliquer que la raison pour laquelle ce sont des kohanim qui sont devenus rois, c'est parce que c'est par les qualités de Hazout, de la tribu de Lévi et tout particulièrement des kohanim, qu'on a été capable d'installer la royauté. C'est-à-dire, il faut dire « Emidou Melech » Mina Kohanim, ça veut dire, c'est la Hamada, le fait d'avoir été capable d'installer la royauté, c'est grâce à la Kehuna. C'est Mina Kohanim qu'on a pu, c'est comme si le Rambam voulait dire, à l'idée à Kohanim, ou derrière à Kohanim, et Midou Melech. Il met pas du tout en avant le fait que les rois soient des Kohanim. Parce que ça, c'est une erreur, c'est sûr. Enfin, quand je dis que c'est une erreur, je vais peut-être justement dire le contraire là, tout de suite. Expliquer un peu. Regardez. La Malchut, elle appartient à la tribu de Yehuda. Mais qui était le premier roi? C'est Shaoul. Shaoul, c'est la tribu de Binyamin. Comment se fait-il que, bien que Yehuda ait été désigné par Yaakov Avinu comme étant la tribu royale, le premier roi, il n'est pas de la tribu royale. Alors, il y a beaucoup d'explications possibles, mais je pense que, peut-être que vous avez une idée, qu'est-ce que vous suggéreriez pour expliquer pourquoi le premier roi n'est pas de la tribu d'Yehuda. Vous pouvez ouvrir votre micro et vous pouvez répondre. La réponse la plus simple possible.
C'est le peuple qui a demandé.
Le peuple, il a demandé un roi.
Ouais.
Il n'a pas demandé Shaoul. Et Shaoul, c'est sûr que Shaoul ait été un super sadique, qu'il était, comme disent les psukim, il était au-dessus de tout le monde. D'accord? Ça fait aucun doute. Mais sauf qu'il n'est pas de la tribu d'Yehuda. Or, Yaakov Avinu a dit que le roi, il doit être de la tribu d'Yehuda.
Il a été loin par Hachem?
Oui, par Shmuel, sur le nom de, exactement comme David.
Et c'est le peuple qui a mis en place Shaoul?
Le peuple, il a seulement demandé un roi. Shmuel n'était pas très pour, il a essayé d'argumenter, mais le peuple a dit non, mais nous on veut un roi comme les Goïms. On veut avoir un roi, comme tout le monde. Je crois que la réponse, me semble-t-il, la plus simple, ça ne vient pas entièrement de moi, c'est que c'était pas mûr. Il n'y avait personne dans la tribu d'Yehuda à ce moment-là qui pouvait le jouer ce rôle-là. Vous voyez bien, David n'était pas... David, c'est encore un jeune homme, il n'était pas mûr pour être roi à ce moment-là. Donc c'est Shaoul qui a été loin, en attendant, parce qu'il y a, il y a comme une espèce de régence. Alors quand le roi n'est pas capable de jouer son rôle, eh bien il y a quelqu'un qui est là et qui le remplace. Et on peut très bien dire, là, si vous voulez, pour des raisons historiques cette fois-ci, il n'y a personne qui peut jouer le rôle de roi. Alors on pourrait penser que voilà, les Kohanim Voilà, les Kohanim ont gagné la guerre. Grâce à eux, il va y avoir la royauté. Et puis maintenant, quand on cherche, mais alors qui est-ce qu'on peut mettre comme roi? Ben, il n'y a personne. Donc on peut se dire, ben, en attendant, on va faire fonction de roi. Et puis quand il y aura quelqu'un qui sera capable de l'être, d'être roi, et qui sera de la tribu de Yehuda, on lui donnera le pouvoir. Donc on peut très bien dire, on doit dire d'ailleurs, que c'est sûr que les premiers Hashmonaïm, c'était des Tzadikim qui étaient, ont été Moser Nefesh et Tzadikim, pas chut. Donc, c'est difficile de dire comme ça que froidement, ils ont simplement, c'est sûrement pas par kavod personnel que des gens qui ont risqué leur vie, etc., tout à coup, ils se sont bombardés pour le roi. C'est qu'il y avait personne, c'est vrai. Ils étaient tous pourris. Tout l'establishment était acquis aux idées grecques. Alors, le problème, c'est que ça n'a pas marché. C'est-à-dire que, ou bien, on n'avait toujours pas, durant ces 200 ans, on n'a jamais trouvé quelqu'un qui était capable d'être roi, dans la tribu de Yehuda. Ça, j'en sais rien. Mais bon, peut-être. Ou alors, c'est pas parce que les parents étaient des Tzadikim que les descendants étaient des Tzadikim. Et peut-être que les descendants, ils ont pris goût au pouvoir et qu'ils voulaient plus le lâcher. C'est aussi une possibilité. Quand on a le pouvoir, c'est difficile de le... C'est très généreux de donner son pouvoir aux autres. Vous avez le pouvoir, vous allez le donner aux autres. Alors, je ne sais pas répondre. Mais la question qui se pose, c'est quand même, comment se fait-il que ça n'ait pas marché? Finalement, c'est les Tzadikim qui mettent au point quelque chose. Pourquoi ça va marcher? Le Ramban, il a l'air de dire, bon, c'est clair, hein, ça n'a pas marché parce que ça pouvait pas marcher. C'était interdit, ils ont fait quelque chose qui était interdit. Eh bien, tôt ou tard, ça se retourne contre eux et finalement, ben, ils ont perdu, on a tout perdu. À un moment donné, il y a eu Hérode, et puis après, il y a eu Hyrcan et Aristobule, et donc, ils ont amené les Romains, mais comme dit Ramban, les Romains, ils sont pas venus tout seuls. Hein. Les Romains, ils sont venus parce qu'on est allé les chercher. Dans la lutte fratricide entre Hyrcan et Aristobule pour le pouvoir, justement, les deux frères, eh bien, il y en a un qui est allé chercher les Romains pour l'aider, parce qu'il avait des contacts avec les Romains. Donc, la victoire des Hashmonaïm, elle pourrait être considérée comme une espèce de victoire à la Pyrrhus, finalement. Parce qu'au fur et à mesure que les générations passent, les rois se comportent comme des Grecs. Comme des Grecs, Romains, c'est un peu dans les valeurs grecques et les valeurs romaines. Quoi. Et donc, ils deviennent eux-mêmes, bon, ils deviennent Tzedoukim, ils deviennent Sadducéens, etc. La victoire, elle est due à la Torah Shebaalpé. Et au bout d'un moment, ils deviennent sadducéens, c'est-à-dire des gens qui ne reconnaissent pas la Torah Shebaalpé. C'est tragique, c'est à pleurer d'ailleurs, c'est pour ça qu'on pleure. Mais voilà, c'est ça la situation, elle est affreuse, terrible.
Mais en même temps, la Torah Shebaalpé, elle se développe dans cette période, en parallèle.
Oui, la Torah Shebaalpé, par ailleurs, elle va se développer avec l'opposition des Tzedoukim. Et vous voyez, par exemple, si vous prenez Pirkei Avot, vous regardez, il y a pas mal de Tanaïm qui ont des noms, Antignos, Urpenes, etc., ils ont des noms grecs. Pourquoi? Parce que leurs parents leur ont donné des noms grecs. C'est-à-dire pour montrer évidemment comme c'était rampant cette hellénisation en quelque sorte, et on est après la victoire de Rachmonaïm, bien sûr. Malgré tout, Rachmonaïm, ils ont gagné, ils étaient plus forts, à cause beaucoup leur a fait des nissim ni flaot. Ok, mais on en est encore à donner des noms grecs à tout le monde, mais il y en a quand même beaucoup. C'est quand même étonnant, je veux dire. Ou bien eux-mêmes, ou en tout cas leurs parents, ils sont ben, avec des noms grecs. Alors, l'année d'après, on a fixé, les Chachamim ont fixé Hanouka. D'après ce qu'on entend, d'après ce que dit Rambam, etc., et si on regarde la situation, on peut vraiment dire que la grande victoire contre les Grecs, c'est une victoire, c'est l'instauration de la prise du pouvoir des Bnei Israël sur eux-mêmes. Mais il n'y a jamais chez les Bnei Israël, on ne va pas faire une fête pour la prise de la Bastille ou etc. On ne fait jamais de fête pour les victoires dues à la guerre. Les Chachamim n'ont pas fixé un Hanouka à cause de la guerre. Le Hanouka, on l'a fixé à cause du parchemin, à cause de la fiole d'huile. Donc, les Chachamim, ce dont ils ont voulu qu'on se souvienne et qu'on publie, il s'agissait, on n'a pas publié la victoire. On a publié le Nes. C'est pour ça qu'on allume à l'extérieur de la maison. On allume à l'entrée de la maison, mais on l'a déjà dit, quand vous entrez chez vous, quand vous êtes chez vous, vous avez appliqué, si vous avez pu appliquer la halakha, vous ne voyez pas du tout les nerfs de Hanouka. Nous, pour des raisons de galoute, on allume à l'intérieur, alors on voit les nerfs. Mais Ikaradin, la halakha, elle est que tu allumes à l'entrée de ta maison, à l'extérieur. Et même que tu vois pas la mezouza quand tu entres. La Hanoukia, en fait, l'allumage du nerf de Hanouka, il est en face de la mezouza, tu le vois pas plus. Quand tu entres dans ta maison, tu le vois, et encore, c'est du côté gauche. Parce que du côté droit, il y a déjà la mezouza. Mais on aurait pu mettre deux choses. On a mis, alors après qu'on a décidé de le mettre du côté gauche, alors on va dire c'est super parce que on est entouré de mitzvot quand on entre chez soi. On a à droite la mezouza, à gauche la hanoukia. Et quand vous êtes chez vous, vous la voyez pas. Pourquoi? Parce que l'allumage des nerots, c'est le farsem et anes. C'est pour publier le miracle. Et la publication du miracle, c'est pas pour nous, c'est nous qui publions. On est en charge de publier le nes. Il y a une halakha que quand je vous fais un nes à quelqu'un, il y a une mitzvah de Tmefarsem, de le raconter. J'ai entendu que, je ne sais plus quel Nes lui est arrivé, le Breskerov, il est arrivé un Nes. Et donc tous les gens qui venaient le voir, il y a plein de gens qui venaient le voir, ils le racontaient le Nes. Les gens de la famille, ils avaient la tête comme ça. Ils l'avaient déjà entendu 85 fois. D'accord? Mais à chaque fois que quelqu'un de nouveau venait le voir, faut que je te raconte mon S, et il racontait de nouveau son S. Pourquoi? Il y a une mitzvah de raconter. Ben, nous, on raconte le S. Aujourd'hui, quand on allume, on raconte le S. En tout cas, c'est ça que les Chachamim ont voulu. Raconte le S. Mais on raconte pas le S de la victoire. On le dit dans Alanissim, Certains qui pourraient bien être à la chim, etc. D'accord, c'est vrai. Tu as mis les nombreux dans les mains de ceux qui étaient peu nombreux, les forts dans les mains de ceux qui étaient faibles, etc. Bon, mais c'est dans le texte de Alanissim, mais on fait pas, on n'en fait rien. Et Netziv, il écrit que en réalité, ce qui s'est passé en fait avec dans la guerre en quelque sorte, c'est le Nes de Hanouka qui a été en quelque sorte Ma'amid la Torah Shebaal Peh dans le clan Israël, c'est-à-dire c'est la victoire qui a été Ma'amid la Malchut, mais la victoire elle-même, elle est due, dit le Netziv, au Nes, au miracle de l'huile. En quoi est-ce que le Nes du miracle de l'huile est en quelque sorte quelque chose qui nous permette de comprendre le fait que la Torah Shebaal Peh s'est installée dans le plan Israël, vous avez dit très justement, il y a une explosion de la Torah Shebaal Peh à partir de ce moment-là. Qu'est-ce que ça a à voir avec le Nes du Par Shemen? Comment dire que l'un a à voir avec l'autre? C'est un peu difficile à comprendre. Il dit, dans la Gemara, dans la route, c'est marqué la chose suivante. C'est un papa a dit à Abaye, qui m'a dit, comment se fait-il que Hachem ait fait des miracles pour les premières générations, et pourquoi est-ce qu'il n'en fait pas pour nous? Il avait donc interrogé, c'est un papa qui interroge son élève, Abaye. Et Abaye lui a répondu, les premiers, les anciens donc, eux, ils étaient prêts à se sacrifier pour sanctifier le nom d'Hachem. Nous, on n'est pas prêts à ça. C'est Abaye qui parle. C'est un Amora, le nom d'Amora. Nous, on n'est pas prêts à ça. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'Hachem ne fait des miracles à des gens qui sont prêts à risquer leur vie? Alors, le Netziv, lui, il explique comme ça. Il dit que ceux qui fonctionnent de Derech HaTeva, ceux qui fonctionnent avec les règles naturelles du monde, mais effectivement, ils le font le Shem Shamayim, c'est-à-dire il respecte les lois de la nature, mais c'est entièrement ce qu'ils font, c'est entièrement pour Hachem. Alors Akadosh Baruch Hu se conduit avec eux avec l'amida dont on a parlé déjà, qui s'appelle l'amida de Malchut. Malchut, c'est une façon de gouverner les choses naturellement. Bon, on demande au peuple s'ils sont d'accord. Et donc ceux qui ces choses se passent naturellement, donc il n'y a pas de miracle. Par contre, ceux qui se conduisent le malami teva enoshi, ceux qui se conduisent au-dessus de la nature humaine, la Kadosh Baruch Hu lui aussi, il se conduit avec eux selon un aga que le Nesiv appelle Tiferet, c'est-à-dire une façon de se conduire avec eux. Le mal a mis la teva aussi, c'est-à-dire c'est exactement ce que fameux principe qui est Hashem Silcha, Kadosh Baruch Hu, c'est ton ombre. Il fait comme tu fais. Tu te conduis selon les règles de la nature, Kadosh Baruch Hu se conduit avec toi selon les règles de la nature. Tu es prêt à dépasser les lois de la nature pour servir Hashem, alors Hashem te permet de dépasser les lois de la nature. Alors, ceux qui sont prêts à un kiddush Hashem, ceux-là, ils méritent. C'est au-dessus de ce que font les humains d'ordinaire. Alors, Kadosh Baruch Hu leur fait des miracles aussi. Voilà. Ça, c'est ce que dit le Netziv pour expliquer que les Hashmonaïm, ce qu'ils ont fait, c'est le mal à Melateva. Ils ont risqué leur peau. Parce que dans toutes les batailles, ils étaient archi-minoritaires. Ils avaient sur le papier aucune chance de s'en sortir. Aucune. Kadosh Baruch Hu, effectivement, il leur a fait des miracles, enfin en particulier, il leur a fait ce miracle de la fiole d'huile. En fait. Et maintenant, si vous voulez, ce miracle de la fiole d'huile, il va avec la Torah Shebaalpeh, parce que qu'est-ce que c'est la Torah Shebaalpeh? La Torah Shebaalpeh, c'est accepter de se conduire le mal à Minateva. La Torah Shebaalpeh, elle tient compte, respecte les lois de la nature dans la mesure où elle pose pas de problème, si on veut, mais en fait, on vit au-dessus des lois de la nature. La Torah, vivre selon la Torah, c'est toujours vivre selon la Torah, ça veut dire vivre selon la Torah chez Balpé, on vit au-dessus de la nature. Donc c'est ça qui a été dit. Kadosh Baruch Hu a fait le miracle, et puisqu'on a compris qu'on vivait, du coup, dans ce monde de miracles, alors c'est ça qui a permis, ça a incité les gens à vivre à ce niveau, à développer la Torah Shebaalpeh pour vivre à ce niveau d'au-dessus de la nature. L'être au-dessus de la nature, ça veut dire que la chose suivante, ça veut dire par exemple que même si aujourd'hui par exemple les Bnei Israël, ils sont soumis au même virus que les Goïm, mais en réalité, depuis qu'on est sorti d'Égypte, en réalité, nous, on n'est pas soumis aux mêmes lois. Depuis qu'on est sorti d'Égypte, nous, on est soumis à la loi de Sra'ar ve'Onesh. C'est-à-dire, la loi de la nature, c'est une loi qui s'occupe pas du tout de savoir si les gens sont valeureux ou pas. La loi de la nature, elle fait que le virus, il joue son rôle de virus, et il demande pas, il vient pas vérifier si la personne, elle a mis les tefilines de Rabbeinu Tam ou si elle a allumé les lumières de Shabbat pour savoir si on peut l'attaquer. Le virus, il vient, il attaque. Il s'occupe de... Il n'y a pas de réflexion de la part d'un virus, évidemment. Mais le fait que les Bnei Israël sont soumis à cela, ça, pour nous, c'est différent. Nous, et c'est pour ça que ça a un sens différent. Nous, on est obligés de se poser des questions sur pourquoi est-ce que les choses nous arrivent. Les goïms, ils n'ont pas de questions à se poser, c'est les lois de la nature. S'ils n'ont pas respecté la loi de la nature, ok, bon, ça va, ils savent. Mais s'ils ont respecté la loi de la nature et que malgré tout ça leur arrive, il n'y a rien à chercher, c'est-à-dire il n'y a rien à interpréter. C'est les lois de la nature qui s'appliquent. C'est tout. Un virus, il fait son travail. Mais chez nous, on ne peut pas raisonner de cette manière-là. Parce que nous, on fonctionne avec la Torah Shebaalpeh, La Torah Shebalpeh, c'est la Torah qui nous permet de vivre au niveau du le Malamin Ateba. C'est ça, le peuple juif, en fait, il est gouverné par un autre principe, qui n'est pas le principe des lois de la nature. Les lois de la nature, c'est aussi des lois d'Hachem. Hein. C'est pas du tout qu'il n'y a pas la nature qui a ses lois indépendantes d'Hachem. C'est des lois qu'Hachem lui-même a décidées. Simplement, ces lois, c'est des lois un peu comme, si vous voulez, comme on explique la gouvernance par un malach. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu n'acceptait pas, ne voulait absolument pas que le clan Israël soit dirigé par un malach? Hachem lui a proposé, quand Hachem a été d'accord de pardonner la faute du Vaudor, il a dit, je vous envoie un malach. Moshe Rabbeinu a dit, mais si c'est pour nous envoyer un malach, tu peux m'effacer de ton livre, je marche pas, je suis pas d'accord. Et Hachem a cédé. Hachem a cédé, il va le dire à Moshe Rabbeinu à la fin de sa vie. Quand Moshe Rabbeinu va insister pour rentrer en Eretz Israël, Hachem va lui dire, écoute, la dernière fois, c'est moi qui ai cédé. Tu m'as demandé de pas envoyer un malach, j'ai pas envoyé un malach. Maintenant, c'est toi qui dois céder. Je dis que tu n'entreras pas en Eretz Israël. Maintenant, si tu veux, on change tout. J'envoie un malach, et toi, tu rentres en Eretz Israël. Et Moshe Rabbeinu, non, ça, je veux pas ça. On voit très bien que dans le Midrash, on s'est présenté, Hachem dit, voilà, c'est... Moshe Rabbeinu a négocié avec Hachem, et Hachem a cédé. Il a cédé, il n'a pas envoyé un malach. Mais pourquoi Moshe Rabbeinu, il veut absolument pas un malach? Tous les peuples ont un malach, pourquoi on ne pourrait pas nous aussi avoir un malach? Parce que justement, jamais Moshe Rabbeinu n'aurait pu négocier quoi que ce soit avec un malach. Un malach, il n'a absolument aucun pouvoir de décision. Il est ce qu'on lui a dit, il fait, et il est ce qu'on lui a dit de faire, rien d'autre. Il n'a absolument aucune possibilité. Négocier, c'est seulement possible avec Hachem. Bon, on peut parler. Avraham Avinu, il négocie avec Hachem. Moshe Rabbeinu négocie avec Hachem. C'est-à-dire, avec Hachem, on fait appel à la Rachamim, etc. Il n'y a pas de Rachamim possible à essayer d'utiliser contre un malach. Et même s'il le voulait, il ne pourrait pas. Il n'est que ça. C'est la loi. C'est la loi de la nature. Vous pouvez pas négocier avec la gravitation. Vous pouvez pas lui dire, écoute, tu te mets un peu en sommeil, là, maintenant je saute par la fenêtre, mais voilà, ça va bien se passer. Vous pouvez pas négocier avec la gravitation. C'est un malach, la gravitation. Voilà, ça se négocie pas. C'est les lois de la nature, ça se négocie pas. Et donc, quand les Bnei Israël ont vu que la Messie Nefesh a ouvert la possibilité de vivre avec des Nissim. Et il faut bien remarquer que le Nes de Hanouka, il n'était pas du tout nécessaire. La halakha, elle est que quand tout le monde est tamé, ou la robe est tamée, on aurait pu apporter de l'huile tzméa. On aurait pu allumer avec de l'huile qui était tamée. C'était pas nécessaire. Pas nécessaire d'avoir de l'huile pure obligatoirement. On n'avait pas besoin de faire ce miracle. On aurait pu allumer le premier jour avec ce qu'on avait, puis après, on n'avait plus, alors on allume. On peut allumer le Touma avec de l'huile qui n'est pas certifiée pure, qui est éventuellement même pas non pure. C'est pas nécessaire parce que le Touma, on peut apporter ce corban. Enfin, on peut apporter l'huile de la menorah. Donc, c'est vraiment une marque. Hachem dit, voilà, si vous voulez vivre à ce niveau-là, alors, ok, on vit avec ce niveau-là. Donc, c'est ça, le Nes de Hanouka, c'est lui qui a permis l'explosion de la Torah chez Baal Peh. C'est ça que explique le Netziv. Donc il reste cette chose difficile en fait à comprendre, qui est comment se fait-il finalement que ça n'a pas marché? Finalement, au début, c'était Tzadikim. Après, ils n'ont plus été. Mais pourquoi est-ce que Hachem a laissé faire, en quelque sorte? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait en sorte que ça continue bien, puisque ça avait bien commencé, a priori? Le Massé Avot, Simon Labanim. On a un principe que ce qui arrive dans les actions des Avot indique, pointe, ou nous disent ce qui va se passer avec leurs descendants. Le Massé Avot, Simon Labanim, qui est à la source de la victoire contre la Grèce, c'est évidemment la victoire de Jacob sur Esav. Mais cette victoire de Jacob sur Esav, elle n'est pas simplement un massé à vote par rapport à ce qui s'est passé à l'époque des Hashmonaïm. Donc ça veut dire ce massé à vote là, c'est-à-dire la victoire de Yaakov sur Esav, il parle de quoi? Il parle de la victoire ultime de Yaakov sur Esav. La victoire ultime de la lumière sur l'obscurité. C'est-à-dire, on parle de la Géoula finale. De la Géoula, de la fin de l'histoire. Pas spécifiquement de cette Géoula de Yavan, de la victoire contre la guerre contre victorieuse. C'est assez curieux, parce que l'exil grec, c'est un exil qui ne mérite pas son nom, puisque, comme on l'a déjà dit fréquemment, nous sommes sur la terre d'Israël, on n'est pas exilé du point de vue territorial, et nous avons le Beth Amikdash. Les Grecs n'ont pas détruit le Beth Amikdash. Et on a déjà dit plusieurs fois qu'en réalité, toute cette guerre, c'est plutôt une guerre civile. Parce que, bon, il y avait évidemment des Grecs d'Athènes, probablement qu'il ne devait pas y en avoir beaucoup. Si c'était des Syro-Grecs, c'est-à-dire des Syriens acquis aux valeurs grecques, quand on est après la victoire d'Alexandre sur toute la région, et les valeurs d'Alexandre, les valeurs grecques se sont répandues partout, elles sont considérées comme la lumière, il n'y a que les Bnei Israël pour dire que pour nous c'est le Rocher, la Grèce. Mais on parle donc dans cette victoire de Yaakov sur Esav de la fin de l'histoire, de la toute fin de l'histoire. Et en ce qui concerne la Géoula, ah oui, je voulais dire encore une chose, c'est que des autres Géoulot, on n'est pas sorti en faisant la guerre. On n'a pas fait la guerre pour se libérer des Mèdes et des Perses, c'est au contraire, ce sont eux qui nous ont octroyé le droit de revenir en Eretz Israël. Et on n'a pas non plus perdu une guerre contre les Syro-Grecs. Alexandre a gagné la guerre, il a battu tout le monde, il a conquis. Je ne pense pas qu'il y ait eu une bataille spécifique des Bnei Israël contre Alexandre. C'était beaucoup trop fort. Donc, ce qui s'est passé, c'est pas homogène avec tout le reste. Ici, on est sorti par une guerre. Et donc, l'événement de Hanouka, la libération du joug des Grecs, c'est quelque chose qui ressemble. Il y a quelque chose comme une lumière de la Géoula finale. La Géoula finale, c'est quand même la lutte contre Esav. Le Maharal dit qu'en ce qui concerne le chidouche des différentes sortes d'opposition à Israël, il n'y a que les trois premiers royaumes qui représentent des choses différentes. Le quatrième royaume, celui des Dômes, c'est simplement on reprend les mêmes et seulement on les prend tous ensemble. Donc, d'une certaine façon, la victoire contre Yavan, elle est un peu une victoire finale contre les différents royaumes. Puisque c'est une victoire finale contre les différentes sortes d'opposition à Israël. Et ce qui va se passer à la fin du Galout d'Edom, quelque part, c'est la même chose que ce qui s'est passé à la fin du Galout de Yavan. Donc, Achrit Hayamim, comme on dit, la fin des temps, après Yavan, c'est aussi une forme de fin des temps. Et dans les psukim de Bereshit, donc vous savez bien que les psukim de Bereshit correspondent au tout début, ça correspond effectivement aux quatre royaumes. Rocher Alpne Terom, c'est Yavan, et avant les psukim d'avant, c'est les psukim sur Babel et sur Paras et Modai. Et quand on dit Ruach Elohim rachefet al pnei hamayim, que l'esprit, le souffle d'Elohim flotte, vole au-dessus de l'eau, alors, le Midrash dit Zeruho shel melech ha-mashiach, c'est l'esprit du Mashiach. Et juste après ce verset-là, c'est marqué, Hashem a donné un ordre, Yehi Or, il y ait de la lumière. C'est-à-dire, il y a eu, avant la lumière qui représente le Nes de Hanouka, c'est-à-dire la victoire de Hashmonaïm, juste avant, il y avait le Choshech, les ténèbres. C'est-à-dire, c'est le Esther Panim qu'il y a avant la Geoula. Donc, c'est toujours un processus qui se répète. Avant la Géoula, avant la lumière, il y a une période de plus forte obscurité. Alors, il y a un passouk dans Sefer Dvarim qui parle sur le Esther Panim et qui dit « Vanochi » Aster astir panay mehem, moi, je cacherai mon visage au Bnei Israël. Pourquoi? Ki panael Elohim acherim, puisqu'ils se sont tournés vers d'autres dieux. Alors, l'explication qui panael Elohim acherim, ils se sont tournés vers d'autres dieux. Ça parle pas d'Avodah Zara. Spécifiquement. Pourquoi? Parce que Nishreta Yitzra d'Avodah Zara. Le Yitzra d'Avodah Zara, il a déjà été détruit. Mais la Kavana, c'est en fait, se tourner vers d'autres dieux, ça voulait dire faire confiance à d'autres peuples pour nous aider. c'est-à-dire faire confiance aux forces naturelles dans le monde. Et donc, c'est pour ça que Mida Keneged Mida, le chidouche du monde de la Géola, c'est-à-dire à ce moment-là, il va se dévoiler comment toutes ces forces-là n'existent pas contre Hachem. Mais tout ça, à ce moment-là, c'est encore Behester Panim. C'est encore caché. Ça va se dévoiler, mais c'est encore caché. Et ça, c'est-à-dire tout ça, c'est encore caché jusqu'au moment où on va en finir avec cette idée que on pourrait se tourner vers d'autres forces, vers d'autres Elohim. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Géoula, c'est quand le clan Israël va se tourner son visage vers Hachem, en quelque sorte. C'est pour ça que chez Yaakov Avinu, après l'événement le moment où il a lutté contre l'ange, c'est marqué que Yaakov Avinu va écrire Hachem Amakom Peniel. Il a nommé cet endroit Peniel. Kirati Raiti Elokim Panim El Panim. Parce que j'ai vu Hachem Elokim face à face. C'est-à-dire, il a goûté, Mishrazal, à cette idée de voir face à face à la Géoula finale. Alors, Yaakov Avinu, à un moment où il a gagné, il a goûté un peu de ce qui va se passer à la fin des temps. Il a vu Elohim face à face. Eh bien, c'est la même chose avec Yavan. Les Grecs ont été gozers des Xerot contre la Chochma de la Torah. Et ils ont voulu faire triompher leur Chochma contre la Chochma de la Torah. Leur Chochma, c'est Chochma Tateva. C'est la science, les sciences de la nature, la connaissance de la nature. Ils ont voulu montrer que les connaissances de la nature sont plus fortes que la connaissance de la Torah. La Chochma Tateva, c'est les sciences de la nature, la sagesse de la nature, elle pense que tout fonctionne selon des limites et fonctionne selon des forces qui sont là, à l'œuvre, dans la nature. Et donc, c'est quelque chose qui nie qu'il y ait une volonté supérieure qui est au-dessus de tout ça. Et dans la victoire de Hashmonaïm, qui eux se sont sacrifiés pour lutter contre les décrets qui avaient pour fonction, qui avaient pour but de détruire complètement les valeurs de la Torah. Donc eux, parce qu'ils se sont levés contre cela, alors ils ont eu aussi un dévoilement d'un peu de cette Géoula finale, de ce face-à-face en quelque sorte final. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, ce qui était en jeu, si vous voulez, c'était quelque chose dont on pourrait dire que c'était une espèce de répétition. Donc, non, pas la répétition, mais c'est au contraire, c'est une répétition au sens où on se prépare, une répétition comme les répétitions dans le théâtre. On répète avant la pièce, avant la première fois où la pièce va être représentée. Bon. C'est comme si on avait fait un premier passage pour rôder les choses, pour voir un peu, pour les faire exister déjà un peu dans ce monde, dans ce monde-ci. Qu'est-ce qu'on voulait rôder? Cette histoire de recherche qui est suivie de hors de la vraie de la lumière. C'est pour ça que les Chachamim, quand ils ont fixé le Hanouka, ils l'ont fixé avec la lumière. Le problème, c'était de comprendre que la lumière en question, c'est une lumière miraculeuse, en fait. C'est-à-dire que, anarchiquement, on pourrait se demander, est-ce que, quand la menorah, elle a brûlé, miraculeusement, est-ce qu'on a fait la mitzvah de la katnerot de la menorah? Ou est-ce que la mitzvah elle se fait seulement avec de la vraie huile? Et pas avec de l'huile miraculeuse. Bon, alors c'est vrai que c'est de l'huile qui a brûlé. Mais on l'a pas allumé spécifiquement à chaque fois. Donc c'est juste en passant comme ça, on n'a pas fait brûler l'huile normale. C'est de l'huile un peu miraculeuse. Sauf qu'on peut dire que, au départ, c'était de l'huile normale, mais qui a continué de brûler. Donc c'est pas une huile artificielle, en quelque sorte. C'est pas que on a réussi à fabriquer de l'huile d'olive artificielle et on a brûlé cette huile d'olive artificielle qui était pas susceptible de devenir impure, etc. C'est pas ça. C'est vraiment l'huile normale qui a prolongé. Donc c'était un vrai miracle, mais un miracle qui se fait justement avec l'huile, avec la menorah, avec la suite de la menorah. Vous savez bien qu'on doit considérer que le fait que nous allumions les nérodes de Hanouka, c'est la suite de l'allumage des nérodes de la menorah par Aaron. Puisque Hachem a dit à Aaron, ta mitzvah à toi, elle va continuer au-delà de la destruction du Beth Amikdash. Quand il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus de menorah non plus. Alors, en quoi est-ce qu'Hachem a pu dire à Aaron, qui était triste de ne pas avoir apporté de korbanot à l'inauguration, vous vous souvenez, à l'inauguration du Mishkan, il a dit, mais toi, ta mitzvah, elle est plus grande que la leur. Elle n'est pas plus grande que la leur. La leur, elle s'arrête. Il n'y a plus de korbanot quand il n'y a plus de Beth Amikdash, mais il n'y a plus de menorah non plus quand il n'y a plus de Beth Amikdash. Justement, ce qui se passe, c'est comme le miracle il a eu lieu avec la menorah, et que nous, on continue en allumant. C'est pas qu'on allume la menorah. Si on avait voulu copier, on aurait dû faire une menorah à 7 branches. Nous, on fait une Hanoukia à 8 branches parce que c'est pas du tout qu'on est en train de... Et d'ailleurs, pour la mitzvah elle-même, il suffirait d'allumer un seul nerf chaque soir. D'accord? C'est le hidur mitzvah qu'on fait d'allumer 1, 2, 3, etc. C'est un rideau. Ça aussi, ça fait partie des choses remarquables qui ont à voir avec la Torah Sheba'al Peh, en fait. Parce que la mitzvah de Hanouka, c'est une mitzvah qui est entièrement dans la Torah Sheba'al Peh. Elle n'est pas du tout dans la Torah Shebichtav, évidemment. D'accord? Or, c'est la seule mitzvah, à ma connaissance, c'est la seule mitzvah que personne ne fait telle qu'elle a été donnée. Tout le monde l'a fait avec un hidour. Il y en a qui le font avec deux hidouris. Le fait d'allumer 1, 2, 3, etc., c'est un hidour mitzvah, c'est un embellissement de la mitzvah. Sûr que si quelqu'un est dans un hôtel, dans un hôpital où il peut pas allumer 8, il allume un nerf chaque soir, il est parfaitement yotzé de la mitzvah de la katnerot Hanouka. On n'a pas du tout besoin d'allumer. C'est un hidour, comme tous les hidours mitzvah, si tu peux, c'est bien. Si on n'a pas non plus besoin d'allumer une Hanoukia par personne dans la maison. Les gens qui veulent faire les deux Hidourim, ils allument, chaque enfant allume sa Hanoukia. Donc ça veut dire que tout le monde allume 1, 2, 3, on allume en fonction du nombre de personnes dans la maison, les deux Hidourim. Mais personne n'allume, a priori personne n'allume un Hanouka qu'un seul nerf. Et c'est la seule mitzvah que le clan d'Israël fait sous la forme Hidour. Et c'est une mitzvah minarabanan. C'est une mitzvah de Torah Shebalpe. Pas du tout une mitzvah de Torah Shebirtav, évidemment. Mais c'est justement, ça s'est passé avec quelque chose qui est, on peut pas être réminiscent, mais qui nous parle de ce qui va se passer à la fin des temps. Et ça nous parle aussi, pourquoi ça peut nous parler comme ça? Parce qu'en réalité, c'est ce qui s'est joué dans la lutte de Yaakov avec l'ange d'Essav. D'accord? Yaakov, il a lutté avec l'ange d'Essav. C'était, en principe, c'est une lutte incompréhensible. L'ange d'Essav, c'est un malach. Yaakov Avinu, c'est un bonhomme. Ça dit tout ce que vous voulez, mais c'est un homme. Comment est-ce qu'un homme peut lutter avec... Les malachim, ils sont pas dans le... Ils sont pas... C'est-à-dire, les hommes, ils n'ont pas accès au monde des malachim. Quand Moshe Rabbeinu est allé chercher la Torah, les malachim, ils voulaient le tuer, Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que tu viens faire par ici? Non, tu ne peux pas... C'est pas ta place. Comment est-ce qu'il peut s'opposer à un malach, Yaakov? Parce que justement, Yaakov, il est à la... C'est ça son idée. C'est comme Moshe Rabbeinu va le dire, nous on n'accepte pas cette distinction. Il n'y a pas entre Hachem et nous, il n'y a pas de malach. Donc c'est comme si Yaakov disait, je suis mon propre malach. Le clan Israël, il est son propre malach. Ou, si, ou à l'inverse, on peut dire, Hachem accepte d'être Elokeinu. Il accepte, bien qu'il soit l'Elokim évidemment de tout le monde. Mais il accepte d'être aussi notre Elohim à nous, clan Israël en particulier. Ça, c'est quelque chose d'absolument anormal, en fait. Non, c'est pas, et ça pose un problème, c'est qu'on pourrait se dire que s'il est Elohim nous, alors il peut pas vraiment être Echad. Parce que s'il est partiellement notre Elohim. Donc, on a dit que le Echad, c'est un Echad qui se partage pas. Comment est-ce qu'il peut être le Echad? Il peut être Elohim. C'est quelque chose qu'on comprend pas, mais c'est notre Emouna. C'est ce que nous disons. Bien qu'il soit Elohim, il est néanmoins Echad. D'un Echad parfait. Un Echad insécable, si on veut. On peut pas le casser, on peut pas le... Rien du tout. Et pourtant, il peut être aussi Elohim. Il accepte. Il a accepté d'être notre Elohim. Donc, si vous voulez, ça, tout ça, ça tourne autour de la même idée, en fait. Cette lutte de Yaakov avec l'ange est une lutte qui porte en elle toute l'histoire, enfin, tout le clan Israël, en vérité. Toute la singularité du clan Israël. C'est une lutte qui va jusqu'à la fin des temps. Et dans, contre Yavan, étant donné que Yavan c'était le troisième, c'est-à-dire pour le Maharal, il y a donc trois façons de s'opposer à Israël, celle de Babel, celle de Paras et Madaï et celle de Yavan. Et comme je vous l'ai dit, Edom n'invente pas une nouvelle chose. Edom nous pose des problèmes qu'on ne sait pas résoudre parce qu'on a tous les problèmes à la fois. On a résolu les problèmes séparément. On est sorti de Babel, on est sorti de Paras au Mandaï, on est sorti de Yavan. Vraiment, d'Edom, il n'y a pas, c'est rien de nouveau, mais si vous voulez, ça a une complexité parce que tout arrive en même temps. C'est les trois problèmes en même temps. Et ça, pour l'instant, on n'a pas encore résolu. Alors, vous souhaitez que on résolve rapidement une sorte de tous les problèmes que on voit cette la Géoula finale. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous souhaite